Avec moi. Ça résonne. Bonjour à tous. J'aimerais continuer ce thème démarré déjà il y a quelques fois. On était parti de la rencontre de Jésus avec Zachée, si vous vous rappelez, avec cette parole de Jésus qui voit Zachée dans un arbre et qui lui dit « Dépêche-toi de descendre ». Parce que aujourd'hui, il faut que je demeure chez toi. Il me semble que ce matin, c'est un petit peu le thème d'ouvrir la porte et d'accueillir Jésus. Et on avait vu que pour être complet, une fois qu'on a accueilli Jésus dans sa vie, Jésus veut que je demeure chez lui. Est-ce que l'on a trouver où est-ce que Jésus habite? Et est-ce que l'on est bien avec lui, en lui, chez lui? Et j'aimerais continuer avec vous ce thème. Alors, développer, là j'ai choisi chez l'apôtre Jean. L'apôtre Paul nous parle d'être en lui, d'être en Christ. L'apôtre Jean a ce leitmotiv qui revient souvent. Demeurer en lui. Et j'ai remarqué que dans les épîtres de Jean, c'est répété 23 fois. Jean-Marc disait la pédagogie, c'est la répétition. Et je me suis dit, si c'est répété 23 fois, c'est que c'est important. Alors ce que j'aimerais faire avec vous, eh bien, c'est dans la première épître de Jean, jusqu'à la deuxième épître de Jean, lire ces versets qui nous parlent de demeurer en lui. On démarre donc dans la première épître de Jean et on va lire au chapitre 2 les versets 5 et 6. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. On passe au verset 14 du même chapitre. Je pense que ça doit suivre les versets. Je vous ai écrit peur parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Donc peut-être une analogie là entre demeurer en lui, demeurer en Christ et demeurer dans la parole de Dieu. On poursuit au verset 19 et 20. Du même chapitre. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste qu'ils ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. On a plaisir à demeurer ensemble quand on demeure en lui, quand on demeure en Christ et quand on demeure dans la parole de Dieu. On poursuit avec le verset 24 du même chapitre. Que ceux que vous avez entendus dès le commencement demeurent en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez ainsi dans le Fils et dans le Père. Je lis verset 25 en prime. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Alléluia. Avoir cette joie de demeurer dans ce qu'on a reçu dès le commencement. La manière dont Dieu a touché nos vies. Souvent, c'est des indications pour le déroulement de notre vie chrétienne. Si tout cela demeure en nous, eh bien, c'est que l'on demeure dans le Fils et dans le Père. c'est des certitudes, c'est des convictions, c'est une sécurité. On poursuit avec le verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable, qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Soyons attentifs dans notre relation avec l'Esprit-Saint qui nous donne l'onction. Soyons attentifs de demeurer, de rester dans ce que l'Esprit nous dit. Là aussi, souvent, la pédagogie, la répétition du Seigneur, ce sera de nous ramener toujours à ce qu'il nous a dit, à ce qu'il a déposé en nous. Gardons ce que nous avons reçu, gardons ce qu'il nous a donné. Je poursuis avec le verset 28. « Maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas honte d'être éloignés de lui. » Jésus veut demeurer en nous et il veut que je demeure en lui. Si je demeure en lui jour après jour, jusqu'à ce qu'il vienne. On le rappelle au moment du partage du pain et du vin, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas d'appréhension, il n'y a pas de stress. Pour certaines personnes, le retour du Seigneur, ça pourrait être un moment pour trembler. Dans les années 80, les Américains ont fait beaucoup de films sur le retour du Seigneur. On voyait des gens avec leur tondeuse, puis tout d'un coup, la femme regardait dans le jardin, puis le mari n'était plus là. Il était parti comme ça. Voilà, il y avait quand même un petit peu une ambiance de crainte. J'ai jamais trop aimé cette pression par le film sur le retour de Jésus, où tout d'un coup, il n'y avait plus de pilote dans l'avion. Après, je ne sais pas quelles seront les circonstances du retour du Seigneur. Voilà, une petite connotation comme ça, un petit peu pour sourire. Mais si nous demeurons en lui, nous avons de l'assurance. Et chaque jour qui passe, on va dire, voilà, Seigneur, Maranatha, viens. C'est peut-être au moment de faire la toilette, peut-être au moment du déjeuner, peut-être au moment de la sieste. Ouais, moi, ça m'ira bien. J'ai bien une petite sieste l'après-midi, donc Seigneur, si tu reviens, peut-être le soir au moment du repas, peut-être aussi pendant la nuit. L'Écriture nous dit, on ne sait pas ni le jour, ni l'année, ni l'époque. Beaucoup de gens disent, ouais, mais voilà, Israël est reconstruit, il y a 60 ans. Donc Jésus va pas tarder. Peut-être. On poursuit nos textes dans la première épître de Jean, au chapitre 3, les versets 6 et 11. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Demeurer en Christ, c'est prendre ses distances et s'éloigner de tout ce qui est péché dans nos vies. Verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. La semence de Dieu demeure en lui. La semence de Dieu, c'est la parole. Si nous restons, si nous demeurons près de la parole, si la parole demeure en nous, ça nous met à distance du péché. Verset 16 du même chapitre 3. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde, que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il demeurez dans la parole, demeurez dans l'onction, demeurez aussi dans l'amour de Dieu. Ce sont des lieux de vie, des lieux extraordinaires. Les versets 23 et 24 du même chapitre 3. C'est ici son commandement que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ, que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Voyez là toutes les interactions. Demeurer dans la parole, c'est demeurer en Dieu. Demeurer en Dieu, c'est demeurer dans l'Esprit. Toutes ces choses concourent à notre vie, à notre sécurité spirituelle. Au chapitre 4 de la même épître de Jean, allez, on va lire des versets 12 à 16. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Nous avons vu, nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Alléluia. Je vous lis en prime le verset 17. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Dieu nous a donné, nous donne ces textes pour que nous ayons de l'assurance, que nous soyons bien plantés sur nos pieds. C'est important quand on fait du sport. Je pense à tous les sports de combat, judo, etc. Il faut être... Il y a un homme qui est célèbre en France, je crois qu'il s'appelle Teddy Riner. C'est un champion de sport de combat. C'est un type, il est invaincu depuis... je ne sais pas combien il passe. On a l'impression que ses pieds sont collés au sol, ce qui va le déstabiliser. Ils ont énormément de peine. Ils ont peine à le faire tomber. Si on est ancré dans l'amour, dans l'onction, dans l'Esprit de Dieu, dans la parole de Dieu, l'ennemi aura du mal à nous faire chuter. Nous aurons de l'assurance face à l'ennemi, même pour les plus jeunes. Vous vous rappelez le texte qu'on a lu tout à l'heure ? Jeunes gens, vous êtes forts parce que la parole de Dieu demeure en vous. Quand j'ai compris ça, quand je me suis converti, j'avais 22 ans, j'étais déjà plus tout jeune, en même temps encore un petit peu jeune. Il y a de l'assurance même pour ceux qui sont jeunes. Il y a de l'assurance pour les plus âgés jusqu'au bout. Tout ce qui demeure dans la parole de Dieu nous aide à avoir de l'assurance. Deux derniers versets dans la deuxième épître de Jean, les versets 9 et 10. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous, n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Texte un peu difficile, qui nous demande de prendre des distances, une fois chrétien, voilà, de privilégier le contact, l'amitié avec ceux qui demeurent dans la doctrine de Christ. Moi aussi, hein, je me répète souvent, Pour moi, la doctrine, ce n'est pas un gros mot. Moi, j'aime beaucoup la doctrine. J'aime beaucoup l'enseignement. Souvent, je compare l'enseignement comme un bon repas, un bon morceau de viande, et pour moi, un bon dessert. Une bonne pâtisserie. J'ai autant de plaisir dans l'enseignement que dans certains repas. En ce moment, je travaille un sujet qui est un petit peu ardu. Peut-être le temps d'en reparler ce matin. Pour moi, c'est comme du dessert. Comprendre les richesses de l'écriture, c'est tellement beau. Voilà, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Demeurer en Christ, demeurer en lui, selon Jean, bien sûr, c'est demeurer dans l'amour de Dieu. Cet amour nous conduit à demeurer dans l'Esprit. Et l'Esprit nous rappelle la parole de Christ. Pour Jean, c'est vivre notre amour par l'Esprit autour de l'Écriture. On avait lu il y a quelque temps un texte dans Ecclésiaste au chapitre 4 et le verset 12. C'est le fameux texte qui dit que la corde à trois brins est difficile à rompre. Alors c'est un texte qui est souvent utilisé pour les mariages. Moi, je l'utilise pour cet amour de Dieu. L'amour de Dieu, l'onction de l'Esprit et la parole. Trois brins qui tiennent. Et on peut rajouter trois brins supplémentaires. Dans notre amour de la parole, trois choses peuvent demeurer. Notre culte personnel, quotidien, le travail de l'écriture et toutes ces lectures en dialogue, en confrontation dans l'Église. Là aussi, l'assurance, les certitudes, la sécurité, elle vient quand j'ai confronté tout ce que je crois dans l'écriture avec ce que croient les autres. Je ne suis pas tout seul sur ma planète avec l'écriture. Et j'apprécie beaucoup les mercredis soirs, les vendredis après-midi de prière, quand on peut partager ensemble l'écriture et quand il y a un consensus et quand on se dit, voilà, ouais. Là, je reconnais que cette parole, elle est belle et par l'Esprit Saint et par l'amour de Dieu, on a le même entendement. On comprend la même chose parce que l'Esprit nous rappelle la même chose. Donc on avait vu l'autre fois les trois brins, un culte personnel, une lecture quotidienne de l'écriture. Est-ce que ça nous parle? Est-ce qu'on est coutumier ou est-ce qu'on lit l'écriture une fois de temps en temps? Dans l'écriture, il est question de pain quotidien. Mais il y a un texte qui nous dit aussi que le royaume, c'est plus que le manger et le boire. Et que l'écriture doit être dans notre vie, au quotidien. On partage Matthieu, chapitre 4, c'est les textes que l'on connaît. Mais c'est bien de les rappeler régulièrement. Matthieu 4, 4, Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est une reprise d'un texte du Deutéronome, donc il y a une unité entre l'Ancien Testament et la parole de Jésus qui est dite dans le Nouveau Testament. Le pain quotidien, dans Jean 6, il nous est parlé de pain du ciel, mais c'est aussi une parole de Dieu. Si on veut que l'Esprit Saint nous explique la parole, il faut lire la parole. Est-ce que chaque jour, je peux dire, voilà, Seigneur, que ton amour, que ton esprit ouvre ta parole pour moi. Peu importe la manière, la méthode avec laquelle il faut lire la Bible. Il y en a tout plein. Juste au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, parfois on finit peut-être un peu par s'user. Puis on se dit, bah oui, ça j'ai déjà lu. Psaume 23, j'ai déjà lu. Jean 3, 16, j'ai déjà lu. Chacun a ses textes, mais comment est-ce que Dieu peut mettre de l'appétit, de l'intelligence pour nous renouveler dans la lecture de la parole? Et c'est là peut-être où on a besoin de partager et besoin d'aide. Premier brin, lecture quotidienne de l'écriture. Deuxième brin, travailler sans dans les écritures. Là, je sais que c'est pour beaucoup plus difficile. On va toujours laisser ça aux spécialistes dans l'Église. À votre avis, est-ce que chaque chrétien peut étudier la parole de Dieu? Amen. Oui. Tout le monde peut recevoir, laisser déposer dans sa vie l'amour de l'écriture. Et tout le monde peut avoir accès dans son culte quotidien à la lecture de l'écriture par l'Esprit. L'Esprit Saint peut vraiment être étonnant et peut nous ouvrir des champs entiers de révélation, à condition de faire l'effort de s'ouvrir. Ce matin, il y a une parole d'inspiration, une parole prophétique qui dit, voilà, tu as commencé à t'ouvrir. Il faut continuer. Mais est-ce que pour nous, pour chacun d'entre nous, est-ce qu'on peut demander de recevoir de Dieu l'amour de la parole de Dieu? Je pense que le monde peut être changé, serait bien meilleur si déjà tous les chrétiens aimaient la parole de Dieu. Ça fait à peu près 3500 ans que des hommes lisent l'Écriture, Ancien Testament, 2000 ans pour le Nouveau Testament. Il y a des multiples écrits, plein de bibliothèques dans plein de domaines, pensez au monde orthodoxe, catholique, protestant, pentecôtiste, etc. Ça fait des milliers, des millions de livres qui parlent de l'écriture. Les méthodes d'approche de la Bible sont codifiées depuis très très longtemps. Régulièrement, j'ai eu besoin d'être renouvelé. Ça fait à peu près 40 ans que je prêche. Donc souvent, ma prière, et quand on se retrouve en équipe, Jean-Marc nous a posé la question vendredi soir, est-ce que vous repartez encore pour un an? Et si oui, quels sont vos besoins pour que priez? Moi, j'ai fait la prière pour un jour pour être renouvelé dans l'inspiration, dans la révélation, puis régulièrement, j'ai vu que voilà, j'arrivais plus à tirer trop de nourriture de l'écriture. Donc voilà, c'est Seigneur, comment est-ce que je peux être renouvelé? Et souvent, j'étais, bon, bien sûr, renouvelé par des lectures, par différentes méthodes. Et depuis un petit peu plus de 10 ans, j'ai découvert un livre, alors peut-être vous qui vous ferez vous enfuir en courant. Un de mes livres que j'aime beaucoup en ce moment, ça s'appelle « Le défi de l'herméneutique, comment interpréter la Bible ?» Si je vous dis que ça, pour moi, c'est comme un gâteau à la crème. Regardez avec des grands yeux. Dedans, il est donné environ... Voilà 17 techniques, méthodes, règles, principes pour aborder l'écriture. Et pour moi, c'est comme des gâteaux pâtissiers. Et c'est aussi les choses qui m'ont renouvelé. Parmi ces 19 principes d'interprétation, les auteurs de ce livre ont été vérifiés. Jésus, il en a utilisé 11. Et les apôtres, dans les écrits du Nouveau Testament, ils en ont utilisé 13. Ces derniers temps, j'ai été voir sur Internet, et puis j'ai tapé le thème herméneutique, interprétation de la Bible, puis j'ai été voir sur les sites qu'est-ce qu'ils proposaient. Je n'ai trouvé aucun enseignement aussi pointu et intéressant que celui-là. Donc je me suis dit, waouh, j'ai bien fait de me procurer ce livre. C'est deux spécialistes américains qui ont travaillé l'écriture toute leur vie. Et ils ont défini 19 principes d'interprétation que je retrouve un petit peu partout, mais ce n'est pas aussi bien. Ce n'est pas du gâteau à la crème. Jésus lui-même a interprété l'écriture. Et j'allais dire, il était le premier à l'interpréter. Le Seigneur Jésus est le parfait interprète de la parole vivante. C'est aussi pour ça que c'est important de nous laisser conduire, guider par son esprit, pour mieux saisir, mieux comprendre la parole écrite. À lui tout seul, voilà, dans sa chair, il a été la parole vivante de Dieu. Et sa compréhension de l'écriture, en tous les cas de l'Ancien Testament, est extraordinaire. Il est en lui-même, par lui-même, la loi, les psaumes et les prophètes. Toute l'écriture. Et qui mieux que lui peut nous faire entrer et nous interpréter l'Écriture. Il a interprété pour ses disciples, à partir de l'Écriture, tout ce qui le concernait personnellement. Je pense qu'il devait la connaître par cœur. Dans le judaïsme ancien, on apprenait beaucoup du Pentateuque, de la loi de Moïse, par cœur. Je pense que Jésus connaissait, portait toute l'Écriture en lui-même. Et il a été celui qui a interprété l'écriture auprès de ses disciples. L'écriture utilise ces termes, il leur a ouvert l'intelligence. Rappelez-vous, les pèlerins d'Emmaüs, ils marchent, et Jésus leur raconte dans la loi, dans les psaumes, dans les prophètes, tout ce qui le concernait. Puis là, ils disent, mais il y a quelque chose qui brûle en nous. Ils s'arrêtent à l'auberge le soir, ils partagent le pain, le vin, et il nous a dit, leurs yeux s'ouvrirent. La parole vivante a interprété la parole écrite. Est-ce que l'on vit dans notre quotidien des temps avec la même intensité, la même chaleur? Est-ce que notre cœur brûle parfois quand on lit l'écriture? Plein de textes, je les lis, je les relis, je me dis, oh, tellement extraordinaire. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, parce que la parole de Dieu demeure en vous, que vous avez vaincu le malin. Quand on reçoit des paroles comme ça, à celui qui vaincra, je donnerai cette promesse qui s'en fait. Il y a pas mal d'années, j'ai reçu 3 fois de rang ces textes de l'Apocalypse. 3 fois, le Seigneur m'a dit, à celui qui vaincra. Des paroles qui... Dieu veut que sa parole brûle dans nos vies de différentes façons. Jésus a ouvert les yeux à beaucoup de gens, d'abord à ses apôtres, et il en ouvre encore aujourd'hui. Est-ce que nos yeux ont besoin d'être ouverts encore sur les choses de Christ? Est-ce que nous comprenons bien la doctrine de Christ? Pour beaucoup, ah, c'est quoi ça? Est-ce que la doctrine de Christ est pour nous comme un gâteau à la crème? Un gâteau pâtissier? Une pièce de viande? Peut-être un hors-d'œuvre, un repas complet? Ce sont des images, hein, mais comment est-ce que l'amour de Dieu, la présence de Christ, la présence de l'Esprit-Saint peut nous ouvrir l'Écriture et faire que pour nous ce soit la nourriture extraordinaire, comme la Sainte-Seine. Sainte-Seine, c'est juste un morceau de pain et puis un petit peu de jus de raisin. Mais on a toujours plaisir à le partager, dimanche après dimanche. Comment est-ce que le partage de l'Écriture? Moi, j'aime beaucoup le mercredi soir, toutes les fois où on se rencontre, où on partage l'Écriture et où on gagne en assurance, on demeure dans l'assurance les uns avec les autres. C'est tellement extraordinaire. Jésus a bousculé toutes les interprétations de l'Écriture de son temps. Il a été plus loin, il a été au-delà et il a déstabilisé. Il a bousculé, il a fait basculer bien des choses. Il avait une meute de gens qui lui couraient derrière, des pharisiens, des scribes, des lévites, qui disaient « Mais non, c'est pas ça. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu nous dis ?» Jusqu'au jour où il leur a dit « Va, vous verrez le Fils de l'homme venir. » Puis à un moment donné, ils ont dit, il s'est déclaré l'égal de Dieu. Ça ne va pas, c'est pas écrit. Si, c'était écrit, mais il y avait un aveuglement. Et comment est-ce que Jésus a pu percer, a pu trouer, a pu déchirer tous ces aveuglements, encore aujourd'hui dans le monde, peut-être parfois dans l'Église. Je vais arrêter là et puis on continuera une prochaine fois. J'aimerais prendre le risque une fois de vous raconter ces 19 principes d'interprétation. On les développera pas entièrement. Jean-Marc, je vois, il est dubitatif. Dans les mois qui viennent, pour ceux qui veulent, on pourrait faire un atelier pour ceux qui sont intéressés. Mais voilà, j'aimerais vous en parler quand même. Avec le temps, il y a une usure quand on lit l'Écriture. Ne me dites pas le contraire, je ne suis pas le seul à avoir expérimenté ça. Comment est-ce qu'on peut être renouvelé dans notre approche dans la lecture de l'Écriture? Et là, on a besoin des autres, on a besoin des services, des ministères, pour s'encourager, pour grandir. Tout ce qui peut nous ouvrir à une révélation plus grande, je dis souvent, l'inspiration, c'est une chose. Être inspiré, c'est pas compliqué. Grandir dans la révélation, c'est une autre démarche. Comment est-ce qu'après 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de pratique de l'Écriture, comment est-ce qu'on peut continuer à avoir du plaisir à lire l'Écriture? Ça, je vous parle du plaisir d'un bon repas. Pour moi, j'ai beaucoup de plaisir s'il y a un bon dessert. Et c'est pour ça que je prends cette image. Que voilà, pour moi, l'Écriture, souvent, c'est... Mais j'ai beaucoup de plaisir à lire des choses, parfois peut-être un petit peu ardues, mais qui m'aident. J'ai redécouvert là, tous ces derniers temps un des principes qui sont chers à Jean-Marc Tobois, le principe de la brèche. Comment est-ce que Dieu, dans la vie de Moïse, d'Israël, comment est-ce qu'il y a des moments qui sont perdus? Et comment est-ce que, quand on lit l'Écriture, on peut être conscient de cela et puis de pouvoir dire au Seigneur, Seigneur, qu'il n'y ait pas de temps, qu'il n'y ait pas de brèche dans ma vie. Et Jésus est celui qui répare les brèches. Seigneur, viens réparer dans ma vie. Et il y a quelques autres principes comme ça. Vous verrez que la plupart, on les pratique sans le savoir, sans s'en rendre compte. Mais il y a quand même une richesse dans tout cela. On termine par la prière. Père Céleste, merci de placer dans nos vies ton amour. Merci parce que ton amour fait tourner nos cœurs, nos esprits, nos intelligences vers Jésus, ton Fils. Seigneur Jésus, merci pour le don de l'Esprit. Merci aussi pour ce don de ta parole. Que ton amour, que ton Esprit nous donne de l'assurance, de la joie, dans l'ouverture, dans la lecture de ta parole. Merci de nous aider dans sa compréhension. Merci pour l'accompagnement que tu veux faire, que tu peux faire, pour sécuriser aussi notre vie spirituelle, pour l'enrichir. Merci de nous rendre attentifs, Seigneur, à ces choses. Et merci de nous accompagner de ta présence. Amen.
Comment se laisser gagner par l'écriture? Tout un programme. Après, l'herméneutique, c'est vrai que ça peut paraître non plus de l'hébreu, mais du chinois, alors que ça vient du grec. Donc voilà, il y a peut-être des choses à creuser là aussi, mettre notre intelligence au service de Dieu. J'aimerais qu'on prie pour Susanna. Voilà, tu peux te lever. Viens devant, on va faire ça. Est-ce qu'il y a 3-4 personnes qui ont envie de prier pour elle? Enfin, ça, c'est risqué quand je le dis comme ça, parce que si personne s'approche, elle va être blessée. Moi, j'aimerais bien que Laurence vienne. Elle est où, Laurence? Elle est partie? Non, tu peux venir? Corinne, tu peux venir aussi? Allez, on va choisir des sœurs. Hein, on n'est pas sexiste, mais c'est bien. Patricia, tu vas venir? Voilà. Ça va laisser. Et puis l'assemblée peut se lever. Voilà, c'est une manière aussi d'être acteur. C'est une sœur. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir, je veux te le dire et te le redire. Beaucoup de plaisir à te voir au milieu de nous. Et puis aussi à te voir actrice de ta foi, voilà, témoigner comment tu vivais avec Dieu et le faire de manière toute simple. Bon, c'est quand même la première personne que je vois arriver le soir en prière depuis une bombe en vélo. On va voir si les burkis vont faire la même chose. On va voir. Mais arriver à vélo le mercredi soir, tellement avoir envie de partager hein, ce moment de foi, et puis aussi d'être au service de Dieu dans des choses peut-être très simples. Alors merci pour ton témoignage, merci pour ce que tu as été parmi nous, et puis peut-être à l'occasion que tu puisses revenir aussi en France, on sera toujours très heureux de t'accueillir. Je vais vraiment demander à nos sœurs de prier pour Susanna, que le Seigneur la bénisse et l'accompagne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus. Seigneur notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. 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 Oui, Jésus. Cela nous prend ce coin de l'éche de Timolon, Corriere de Stumbra, le Suan, Milambra, l'Aste. Alléluia, Seigneur. Béni. Amen. Avec le Seigneur te bénisse, Susanna, et merci pour ton témoignage. Amen. Pour continuer dans la prédication de Michel, c'est bien que la parole de Dieu soit un gâteau et un dessert, mais c'est bien que les gâteaux soient des gâteaux aussi. Quelques annonces pour la vie de l'Église rapidement, mais des choses qui sont importantes, on n'a pas les annonces, oui.